Bien, on commence si vous voulez bien. Tout à l'heure à 11h, ce sera Antoine Edman du laboratoire Café à Bruxelles va nous parler de mesure et contrôle du mouvement brownien d'un miroir. Mardi prochain, ce sera Jean Dalibard du laboratoire Café à Bruxelles qui parlera de l'expérience du baquet tournant avec un condensat de rubidium, nucléation et dynamique de tourbillon quantique. Et les deux derniers mardis de novembre, le 20 et le 27, il y aura deux conférences du professeur Alan Griffin de l'Université de Toronto au Canada qui nous parlera de Two Fluid Aerodynamics of Trap Gauze Gases. Bien, alors aujourd'hui, après avoir étudié donc très en détail le problème du condensat dans un pièce tournant, puis le problème des modes ciseaux, permettant de mettre en évidence un certain nombre de propriétés qui résulte de cette étude, j'aborde aujourd'hui donc une série de deux séances sur les tourbillons quantiques. En anglais, vortex. Alors, je vais y consacrer deux séances, la séance d'aujourd'hui et la séance de mardi prochain. Et tout de suite après, il y aura un séminaire de Jean Dalibard qui complétera cette étude par une revue d'expériences récentes sur ces problèmes, d'expériences récentes de tourbillons quantifiés. Donc je vais commencer, si vous voulez bien, par une introduction, essayer d'expliquer un peu quel est le problème et qu'est-ce que je compte faire. Alors, qu'est-ce qu'appelle-t-on un tourbillon quantique? C'est un condensat où les atomes du condensat sont condensés non pas dans un état de moment cinétique nul, mais dans un état de moment cinétique différent de zéro. Alors nous savons que si le problème a la symétrie de rotation autour d'un donné, LZ est un bon nombre quantique, et donc un tourbillon c'est un condensat dans lequel tous les atomes sont dans l'état condensation, dans un état LZ. Égale M max bar avec M différent de 0. M égale 1, plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3, plus ou moins 4, etc. Alors attention, ne pas confondre un tourbillon où tous les atomes ont un moment cinétique, par exemple plus H bar, si c'est un tourbillon M égale 1, avec une excitation élémentaire de moment cinétique M égale 1. Par exemple, pour un gaz parfait, une excitation élémentaire, ça serait une situation où tous les atomes sont dans un état de moment cinétique nul, et un promu dans un état de moment cinétique plus H bar. D'accord? Autrement dit, le moment cinétique d'une excitation élémentaire est microscopique. Le moment cinétique est une unité ou deux unités de H bar. Dans un tourbillon, tous les atomes sont un moment cinétique plus H bar, et le moment cinétique total est macroscopique, il vaut M H bar. Alors, quels sont les problèmes que nous allons aborder? C'est quelle est la fonction d'onde qui décrit l'état dans lequel les atomes sont condensés quand il y a un tourbillon? Quelle est sa structure spatiale? Quelle est la densité spatiale? Quelle est la forme du champ de vitesse d'un tourbillon? Quelle est, deuxième question importante, quelle est l'énergie de l'état contenant l'état à un tourbillon par rapport à l'état sans tourbillon? Ceci, ce sera un problème important pour étudier ensuite, le problème de la stabilité thermodynamique. En effet, nous verrons que si on met un condensat dans un piège et qu'on fait tourner ce piège à une vitesse angulaire oméga, c'est un peu l'expérience du baquet tournant, le titre du séminaire de Jean Dalibard, au-delà d'une certaine vitesse de rotation, l'état à un tourbillon peut avoir une énergie inférieure à l'état sans tourbillon, et donc l'état à un tourbillon peut devenir l'état thermodynamique stable. Donc ça, c'est une notion importante. Autre problème que j'essaierai d'aborder, c'est comment détecter la présence d'un tourbillon, et j'utiliserai pour cela la technique des règles de somme pour l'étude des modes propres de vibration, et je vous montrerai que la présence d'un tourbillon dans un condensat peut modifier légèrement la fréquence des modes propres de vibration, en particulier les modes quadripolaires de surface, et j'étudierai en détail ce problème. Alors, il y a beaucoup de problèmes qu'on pourrait étudier à propos des condensats, mais dans le cours de cette année, je n'ai pas le temps de les aborder tous. Il y aurait le problème de ce qui se passe quand il y a plusieurs condensats, comment ils interagissent, comment ils se disposent dans l'espace, comment ils apparaissent, quelle est leur nucléation, leur mécanisme de nucléation, quelles sont leurs excitations élémentaires. La ligne de tourbillon peut en effet se mettre ondulée et donner des modes supplémentaires. Je n'aborderai pas ces problèmes. Je pense que certains d'entre eux seront étudiés, abordés dans le séminaire de Jean, mardi prochain. Alors, le plan de mon cours aujourd'hui, ça sera suivant. Je vais d'abord prendre le cas simple d'un condensat homogène, condensat contenu dans une boîte, que je prendrai une boîte cylindrique pour respecter la symétrie du problème. Je vous montrerai la propriété essentielle des tourbillons, à savoir que la circulation de la vitesse autour de l'axe du tourbillon est quantifiée. J'étudierai ensuite quel est l'ordre. Nous verrons que le cœur du tourbillon, le centre du tourbillon, la densité spatiale est nulle, et qu'elle s'annule sur une zone de longueur, de dimension, que je calculerai, d'abord qualitativement, puis quantitativement, qu'on appelle le cœur du tourbillon. Autre problème important, quelle est l'énergie par unité de longueur d'un tourbillon qui est contenu dans un cylindre infini. Je passerai ensuite au cas d'un tourbillon dans un condensat inhomogène, une pièce harmonique à trois dimensions, en abordant d'abord le cas du gaz parfait, qui est très simple à étudier, puis en passant à le gaz de boson, à l'autre limite, c'est-à-dire la limite où les interactions sont fortes, c'est-à-dire la limite de Thomas Fermi. Et enfin, aujourd'hui, j'étudierai, pour terminer, quelle est l'énergie du condensat lorsqu'il est à un tourbillon, lorsqu'il est placé dans un récipient tournant, d'abord le cas de gaz parfait, puis le contenu des interactions, et j'introduirai la notion de vitesse critique de rotation. Et la semaine prochaine, je consacrerai tout le cours à la méthode de détection d'un tourbillon par modification des fréquences des modes propres de vibration. Donc, j'aborde donc maintenant deuxième partie de cet exposé, tourbillon dans un condensat homogène. Alors d'abord, quelle est la fonction? Alors, je vais supposer donc que l'axe du tourbillon est l'axe Z. Alors, il est bien sûr naturel à ce moment-là de prendre des coordonnées cylindriques, mais supposer donc que le condensat est contenu dans un cylindre de rayon R et de longueur infinie. Il est donc naturel de prendre comme coordonnées les coordonnées cylindriques. R perpendiculaire, je parle perpendiculaire à le rho parce que rho est déjà utilisé pour la densité spatiale, Z, la côte, et phi, l'angle azimutal. Et comme vous le savez, dans ce système de coordonnées, le moment cinétique le long de l'axe Z est h bar sur i, d sur dφ. Et la fonction d'onde d'un tourbillon de moment cinétique plus h bar, m égale 1, est donc nécessairement de la forme phi, psi de r perpendiculaire z et φ égale chi de r perpendiculaire z et puissance phi, puisque les puissances phi, c'est fonction propre de cet opérateur avec la valeur propre h bar. Alors, cette fonction d'onde, reportons-la dans l'équation de Gross-Litaïski, en rappelant tout d'abord l'expression du Laplacien en coordonnées cylindriques, qui est 1 sur R perpendiculaire, D sur DR perpendiculaire, R perpendiculaire, D sur DR perpendiculaire, plus 1 sur R perpendiculaire au carré, D2 sur DΦ2, plus D2 sur DZ2. Quand je reporte la fonction précédente dans l'équation de Gross-Litaïski, le terme d'énergie cinétique va me donner un terme radial, un terme le long de la Z, et le terme azimutal, D2 sur dφ2, comme j'ai pris une fonction d'onde et puissance ici, je vais avoir moins h bar 2, moins 1 sur r perpendiculaire au carré. Et comme je multiplie le Laplacien par moins h bar 2 sur 2m, le Laplacien prend cette forme, l'énergie cinétique radiale, plus l'énergie cinétique azimutale, plus l'énergie cinétique le long de la Z, plus g fois la constante de couplage, qui carré et qui est le terme d'interaction, qui est réel, hein, nous allons voir que qui est réel, égale mu qui est perpendiculaire z, ou mu le potentiel chimique. Voilà donc l'équation de Gross-Litaïski pour la fonction d'onde précédente, par rapport au cours précédent, donc il y a ce terme supplémentaire qui est apparu ici. Et nous voyons apparaître ici un terme, qu'on ajoute à l'énergie cinétique radiale et le long de la sous-Z, c'est ce qu'on appelle le potentiel centrifuge, qui provient donc de la dépendance en phi particulière que j'ai choisie pour la fonction d'onde. Et nous voyons que ce potentiel centrifuge tend vers l'infini quand R perpendiculaire tend vers zéro, c'est-à-dire quand on arrive sur l'axe, et c'est donc une barrière de potentiel qui empêche la fonction d'onde d'arriver sur l'axe, et qui entraîne donc nécessairement que la fonction d'onde radiale, qui est perpendiculaire Z, doit nécessairement s'annuler en R perpendiculaire égale 0. Donc, l'allure de la fonction d'onde est la suivante, il n'y a pas de dépendance en Z, parce que si je prenais une dépendance en Z, j'aurais une énergie cinétique dans l'angle de Z, et j'augmenterais donc l'énergie, j'ai intérêt à prendre l'énergie la plus basse possible. La dépendance en R, j'aurai une fonction d'onde qui s'annule en R perpendiculaire égale 0. On va préciser tout à l'heure le comportement à ce point, ici c'est simplement qualitatif. Quand on s'éloigne du R égale 0, la fonction d'onde croît sur une zone de largeur B, B0 aussi, et tend vers une constante, quand R perpendiculaire tend vers l'infini. Et cette région-là, où la fonction d'onde radiale s'annule, la densité radiale s'annule, s'appelle le cœur du tourbillon. Alors, quelle est la dépendance en phi? Elle provient uniquement des puissances phi, tout à l'heure. Elle est associée à l'existence de moments cinétiques non nuls le long de l'axe Z. Donc, la phase, alors ça c'est important, la phase de la fonction d'onde ne provient que de la dépendance en phi, et cette phase vaut S de phi égale puissance phi. Et comme nous savons, la vitesse est reliée au gradient de la phase, donc les coordonnées du gradient de S en coordonnées cylindriques sont le gradient radial, c'est ds sur dr perpendiculaire égale 0, le gradient le long de l'axe z, ds sur dz égale 0, et le gradient le long du vecteur unitaire porté par le vecteur unitaire le long de l'axe phi, gradient s de phi égale 1 sur r perpendiculaire ds sur dφ, et comme c'est puissance phi, comme s est phi, c'est 1 sur r perpendiculaire. Ayant ces expressions du gradient de s, j'en déduis la vitesse, ça c'est le résultat central, hein, vitesse, V égale h bar sur m gradient S. Alors, j'ai Vz égale 0, égale Vr perpendiculaire égale 0, et Vφ égale h bar sur m, R perpendiculaire. Alors, par rapport au cours précédent, j'ai changé légèrement de notation, j'ai appelé la masse de la particule grand M, et non pas petit M, pour ne pas confondre avec le moment cinétique MH bar du tourbillon. Hein. C'est un petit détail. Donc voilà le champ de vitesse. Les lignes les lignes tangentes à la vitesse sont des cercles perpendiculaires à l'axe Z et de centrés sur l'axe Z, c'est-à-dire que, et des phi, donc tangents à ces cercles, avec un module H bar sur R perpendiculaire. Voyons que ça a la même symétrie que le champ de vitesse d'un corps solide en rotation, les lignes de tangente à vitesse sont des cercles d'axe Z, mais la dépendance en l'air est différente. Pour un corps solide en rotation, le module de la vitesse croît avec la distance à l'axe. Ici, au contraire, il décroît inversement proportionnel à la distance à l'axe. Alors, conséquence importante de cette dépendance, si je prends la circulation de cette vitesse le long d'un cercle d'axe Z et de rayon R perpendiculaire, il faut donc multiplier dφ par 2pi R perpendiculaire, et comme dφ c'est h bar sur m R perpendiculaire, j'obtiens 2pi h bar sur m, h bar c'est h sur 2pi, c'est donc h sur m. Et ce résultat est en fait valable quel que soit le contour fermé autour de l'axe Z que je prends, c'est pas forcément un cercle d'axe Z. En effet, si je prends un contour quelconque entourant l'axe Z, la circulation de V le long de ce contour, c'est somme le long de C de V scalaire dN, c'est donc H bar sur M et circulation le long de C de gradient S dN, et cette circulation, comme c'est un gradient, c'est tout simplement la variation de S, delta S, quand je passe d'un point, je fais le contour, je reviens au point de départ. Donc, la circulation de la vitesse, c'est tout simplement h bar sur m, la variation de la phase le long du contour. Mais, s est une phase, et la fonction d'onde n'a qu'une valeur en chaque point, donc, forcément, si je veux retourner sur mes pieds quand je reviens en point de départ, la fonction doit être la même, donc et puissance IS ne doit pas changer. Donc et puissance I delta S doit être égal à 1, donc ça veut dire que delta S est un multiple de 2pi. Donc c'est forcément S égale 2pi m, où m est un entier positif ou nul, 0 plus ou moins 1 plus ou moins 2. Et j'obtiens donc un résultat très important, général, somme intégrale lambda en contour C de VDL égale 2pi, un entier m, H bar sur m, égale m fois une quantité universelle kappa qui est H sur m, H la constante de Planck, m la masse de la particule, kappa on l'appelle le quantum de circulation. Et l'entier m caractérise le moment cinétique du tourbillon, il est soit égal à 0, s'il n'y a pas de tourbillon, soit égal à plus 1, si c'est un tourbillon égal à 1, et ainsi de suite. Donc ça c'est un résultat extrêmement important. Dans un tourbillon quantique, la circulation de la vitesse est quantifiée, c'est ça qui est à l'origine du mot quantique. C'est pour ça qu'on appelle le tourbillon quantique. Il y a aussi des tourbillons classiques, bien sûr. Alors, le rotationnel de la vitesse, maintenant, quand il est égal, le rotationnel de la vitesse, comme la vitesse est un gradient, en tous les points hors de l'axe où la vitesse est finie, comme c'est un gradient, c'est rotationnel de V égale 0. Par contre, ce résultat n'est plus valable sur l'axe, hein, puisque la vitesse tend vers l'infini, donc l'axe est une ligne singulière, et le fait que le rotationnel d'une ligne entourant l'axe est une valeur bien définie, ça veut dire que le flux du rotationnel à travers la surface limitée par le contour est lui aussi bien défini, et on en déduit donc que le rotationnel de V est singulier le long de l'axe, et il a la valeur donnée par l'expression suivante, rotationnel V égale M, le moment cinétique du tourbillon, kappa le quantum de circulation, delta 2, la fonction delta à deux dimensions de R perpendiculaire, et Z, le vecteur unitaire, le long de l'axe. Et effectivement, si je prends cette valeur de rotationnel de V, je retrouve bien l'expression écrite ici pour la circulation de la vitesse autour de l'axe. Et si vous regardez ces expressions, vous pouvez vérifier facilement, en revenant à l'expression de Vφ, que la divergence de ce champ de vecteur est nulle, et les deux équations donnant la divergence et le rotationnel de V sont écrites ici, divergence V égale 0, rotationnel V égale M kappa delta 2 de R perpendiculaire à Z. Si vous prenez maintenant un problème de magnétostatique, le champ magnétique d'un courant rectiligne infini, vous avez divergence B égale 0, égale 0, rotationnel B égale J sur epsilon 0 C2, delta 2 de R et Z, où J est la densité de courant, qui est localisée sous forme d'une fonction delta sur le fil qui transporte le courant. Et vous voyez qu'il y a une analogie extrêmement étroite entre ces deux équations, et on peut l'utiliser, par exemple, on connaît la loi de Biot-Savart qui nous donne le champ magnétique créé par un courant de forme quelconque. Si maintenant on prend un tourbillon avec une ligne, un cœur, la ligne du tourbillon qui a une forme haute que rectiligne, on peut utiliser le théorème de Biot-Savart pour calculer le champ de vitesse en un point quelconque de l'espace. Bon, j'arrive maintenant à un autre point, c'est quelle est la taille du tourbillon, quelle est la taille du cœur. Et je vais d'abord commencer par une étude qualitative qui vous rappellera, pour ceux qui l'ont suivi, le cours fait en 98-99 pour étudier comment un condensat s'annule lorsqu'il est contenu dans une boîte, un condensat homogène contenu dans une boîte. Alors, je vais commencer donc par un raisonnement très simple, très qualitatif, qui donne tout de suite le bon ordre de grandeur. Je vais supposer donc, comme je le disais tout à l'heure, le condensat contenu dans une boîte cylindrique très longue, d'axe Z, de rayon R, et je considère une tranche de longueur L de ce cylindre. Alors, s'il n'y a pas de condensat, s'il n'y a pas de tourbillon, excusez-moi, le condensat est homogène dans cette boîte, à part que la fonction d'onde s'annule sur les parois de la boîte, mais ça, j'ai déjà étudié il y a 3-4 ans. S'il y a un tourbillon, en plus, le condensat va s'annuler dans une région qui est le cœur autour de l'axe. Alors, si de la matière disparaît dans l'axe, c'est que la densité a augmenté à l'extérieur, donc à l'extérieur du cœur, la densité spatiale va augmenter de delta rho 0. Donc, il y a un creux de densité le long de l'axe, et puis il y a un excès de densité en dehors du cœur. Alors, par rapport à l'état sans tourbillon, l'état avec un tourbillon va avoir une énergie qui diffère de la quantité delta E. Et quels sont les mécanismes à l'origine de delta E? Il y en a trois. Il y a d'abord la variation de l'énergie d'interaction due au fait que la densité spatiale a changé. Nous savons que la densité d'interaction, l'énergie d'interaction, c'est un demi de G₂. Si ρ a changé, cette énergie d'interaction va changer. Elle va être beaucoup plus faible dans le cœur et qu'elle va être plus grande à l'extérieur. D'autre part, comme la fonction radiale change sur une distance de l'ordre de la dimension du cœur, l'énergie cinétique radiale qui est liée à la variation de la fonction d'onde avec R perpendiculaire va changer. D'autre part, comme la fonction d'onde maintenant dépend de phi, il va y avoir une énergie cinétique azimutale liée à la circulation de la matière dans le tourbillon qui va apparaître. Il va donc avoir une énergie cinétique azimutale due au champ de vitesse du tourbillon. Donc je vais avoir trois énergies supplémentaires qui vont apparaître par rapport à l'état sans tourbillon. Nous allons les calculer et nous allons les estimer en fonction de la dimension du cœur du tourbillon. Évidemment, on va dire ensuite que la valeur optimale de B, c'est celle qui rend l'énergie extrémale, c'est-à-dire que c'est la valeur de B pour laquelle cette variation delta E est minimale. Alors, allons-y. Regardons d'abord la variation d'énergie d'interaction. Le delta E interaction, c'est 1 demi de G intégrale le long du volume de ρ carré de R, ça c'est l'énergie au présent du tourbillon, moins ρ0 carré, qui est l'énergie de l'état sans tourbillon, qui est uniforme. Donc il faut que je calcule un ordre de grandeur de cette intégrale. Alors, pour ce faire, il y a une remarque qu'on peut faire, c'est que si on prend la conservation totale de la matière, si on prend l'intégrale le long de V de D3R ρ de R, c'est aussi l'intégrale le long de D3V du milieu homogène pour lequel je peux sortir ρ0 du Simpson, c'est ρ0V. Et à ce moment-là, on peut mettre cette expression sous la forme delta I interaction égale 1 demi de G intégrale le long du volume de V de D3R, ρ2R moins ρ0, le tout au carré. En effet, quand je développe ce carré, je vais avoir un terme ρ carré qui va me donner celui-là, un terme ρ0 carré mais avec un signe plus, alors qu'il y a un signe moins là, mais le double produit, moins 2ρ0 ρ2R. Le ρ0 qui est une constante, je peux le sortir du Simpson, et l'intégrale de ρ2R je peux apparaître un deuxième ρ0, donc le double produit va me donner un moins de ρ0 carré. Quand j'ajoute au terme ρ0 carré ici, je vais avoir moins ρ0 carré. Ça rappelle un peu le calcul des écarts quadratiques moyens. Hein. Donc, delta I interaction, c'est aussi 1 demi de G, l'intégrale le long de D3, C3R, de ρ2R moins ρ0, la variation de densité, le tout au carré. Alors maintenant, évaluons séparément la contribution du cœur et la contribution de l'extérieur du cœur. Grosso modo, dans le cœur, j'ai plus de matière, je fais un calcul d'ordre de grandeur. Donc, j'ai enlevé ρ0, donc ρ est nul, ρ0 moins ρ0 au carré, ça me donne ρ0 au carré, et le volume correspondant sur la longueur L, c'est 1 demi de G pi b carré L, ρ0 carré. Donc ça, c'est la contribution du cœur à ce terme-là. En dehors du cœur, j'ai un volume qui est pi R2 moins D2L, et la variation d'énergie d'interaction, ça va être ρ0 plus delta ρ0 carré moins ρ0 carré. Alors, quand je développe ce terme-là, je vais avoir 2ρ0 delta ρ0, j'ai 10 de terme en delta ρ0 carré, le 2 simplifie, et je trouve un deuxième terme. Alors, comment estimer delta ρ0? Par un argument de conservation. La quantité qui a disparu du cœur, pi B2L ρ0, c'est la quantité qui est apparue à l'extérieur, pi R2 moins B2L delta ρ0, j'ai une équation qui me donne delta ρ0. Alors, on fait ensuite, on remarque que si je prends R très très grand devant B, je prends que là c'est R2 moins B2 pas R2, et à ce moment-là, cette équation, si je remplace ça par R2, ça va me donner delta ρ0 égale pi, elle va s'en aller B2 sur R2, ρ0 B2 sur R2. Si je reporte maintenant dans l'équation 6,21, ici, et si je remplace ceci par 2ρ0 delta ρ0, j'obtiens finalement delta I interaction égale G pi B2 L ρ0 carré. Je vois que l'énergie d'interaction croît comme le carré du cœur, comme le carré de la dimension du cœur. Quelle est maintenant l'énergie cinétique radiale? Alors, la fonction d'onde radiale varie sur une dimension de l'ordre de B. Donc l'énergie cinétique correspondante, l'énergie quantifiément, c'est h bar 2 sur 2mb2. Et le nombre d'atomes concernés, c'est le nombre d'atomes qu'il y a dans le cylindre de rayon B et de longueur L, c'est donc pi B2 L rho 0. Et voilà donc l'énergie d'interaction liée à l'énergie cinétique radiale, pi rho 0 h bar 2 sur ml. Vous voyez qu'elle ne dépend pas de la dimension du cœur. Enfin, l'énergie azimutale. Alors ça c'est facile, on prend l'intégrale de B à R de l'énergie cinétique des particules qui se promènent donc autour de l'axe avec une vitesse h bar sur m r perpendiculaire, c'est donc 1 demi de mv perpendiculaire au carré, rho 0 l, somme de B à R de pi r perpendiculaire dr perpendiculaire, et en remplaçant b perpendiculaire par h bar sur m r perpendiculaire au carré, je vois apparaître un terme, l'intégrale de 1 sur r dr, qui me fait apparaître un logarithme, avec une bande supérieure qui est R et une bande inférieure qui est B. Donc je m'aperçois que l'énergie cinétique azimutale, qui divergerait s'il n'y avait pas de cœur, à cause du cœur, ça coupe, ça introduit une bande inférieure naturelle, puisque la densité spatiale s'annule à une distance d'ordre de B. Et je trouve donc pi rho 0 L h bar 2 sur M logarithme de R sur B. Quand j'ajoute ces trois termes, j'obtiens donc variation liée d'interaction, énergie cinétique radiale, énergie cinétique azimutale. Voilà un ordre de grandeur de la variation d'énergie totale due à la présence du tourbillon par rapport à l'énergie sans tourbillon. Alors, si je regarde cette expression, je m'aperçois qu'il y a un terme qui croît avec B, qui est le terme d'interaction, ce terme est constant, et puis un terme en log de 1 sur B, moins log de B qui décroît avec B. Donc j'ai une fonction croissante, une fonction décroissante, je vais passer par un optimum, et pour avoir l'optimum, je calcule D sur DB, de delta de EB égale 0, le terme en B2 va me donner un terme en B, le terme en moins log de B va me donner moins 1 sur B, j'obtiens cette équation, d'où je tire B égale racine de H bar 2 sur 2M G rho 0, et remplaçant G par 4pi H bar 2 A sur M, ça va apparaître 1 sur racine carrée de 8pi rho 0 A, ce n'est rien d'autre que la longueur de relaxation, en anglais healing length, que nous avons déjà introduit à plusieurs reprises. Donc on s'aperçoit, par ce petit argument du raisonnement d'ordre de grandeur très qualitatif, que la dimension du cœur B et de l'ordre de trillions. Alors maintenant, on peut faire les choses un peu plus sérieusement, un peu plus quantitativement, ce que je fais maintenant. Je reviens à l'équation de Gross-Pitevsky que j'ai écrite ici. Alors simplement, j'ai tout multiplié par 2m sur h bar 2, et j'ai fait tout passer au premier membre, donc ça c'est le terme radial, le potentiel centrifuge, le potentiel chimique et le terme d'interaction. Alors si je suis très loin du cœur, si 2, la densité va se réduire à rho 0 tilde 1, rho 0 tilde 1, c'est la densité spatiale très loin du cœur, qui est très légèrement supérieure à rho 0, la densité en absence de cœur. Donc, qui va devenir constante, qui carré va devenir constante, donc ces deux premiers termes vont être négligeables, puisqu'il faut intervenir les variations spatiales de qui, et il me reste donc ces deux derniers termes. Si je néglige également le terme en 1 sur R perpendiculaire, je m'aperçois que mu, 2m sur h bar 2 simple qui, mu c'est g qui 2, c'est g rho 0, donc j'ai une équation très simple, c'est que le potentiel chimique, mu, c'est g fois la densité spatiale très loin du cœur. C'est pratiquement égal à g rho 0, la densité spatiale, en l'absence de tourbillon, parce que si je prends R très très grand devant B, rho 0 et rho 0 aussi, là sont pratiquement identiques. Alors, pour rendre cette équation sans dimension, avec des coefficients sans dimension, nous changeons de variable, nous prenons une variable sans dimension qui est S égale R perpendiculaire sur Xi 0 tilde A, où Xi 0 tilde A est la longueur de relaxation associée à rho 0 tilde A, qui est pratiquement égale à rho 0, donc c'est la longueur de relaxation que j'ai introduite tout à l'heure. Et je change de fonction aussi, au lieu de prendre Xi de S, je prends Xi de S égale racine carrée de rho 0 tilde A, la densité spatiale très loin du cœur, que multiplie maintenant une fonction qui est sans dimension F de S. Et si c'est ça, l'équation de Gross-Pitevsky devient maintenant une équation où les coefficients n'ont plus aucune dimension, c'est une équation adimensionnée, et on voit très bien, là, il faudrait aussi prendre tout de suite cet argument mathématique pour obtenir une équation adimensionnée. Il faut que j'exprime tout en fonction de psi 0 tilde, ce qui montre que la dimension du cœur va être de l'ordre de psi 0 tilde. Voilà, c'est une équation. C'est une équation différentielle qui n'est pas linéaire, parce qu'ici, j'ai un terme en f cube. Alors, on ne connaît pas la solution analytique de cette équation, mais on peut étudier comment elle se comporte pour s petit et pour f grand. Si je prends s petit, f de s s'annule près de l'axe, donc f de s va être tout petit, et le terme en f cube va être négligeable devant le terme en f, de sorte que je peux négliger ce terme. Si je néglige ce terme, et je peux le faire près de l'origine, il me reste une équation différentielle linéaire qui n'est rien d'autre que l'équation différentielle définissant les fonctions de Bessel. D'accord ? Donc, f de s à l'origine va avoir un comportement de fonction de Bessel. Et quand j'écris ici m égale 1, tombé en m égale 1, ça va être la fonction de Bessel j1. Donc, au voisinage de l'origine, f de s est proportionnel à j1 de s, et donc est proportionnel à s. Donc, la fonction d'onde part linéairement avec s, de sorte que la densité spatiale va partir paraboliquement. Donc pour s égale 0, ça va être équivalent à s. Si je prends maintenant s très grand, la fonction d'onde ne varie pratiquement plus, je suis près de la symptôme, donc ces deux termes sont négligeables, il me reste ces deux termes-là. En divisant par f de s, je vais avoir f carré de s égale 1 moins 1 sur s2, donc pour s très grand, je vais avoir f de s équivalent pour s tendant vers l'infini à racine carrée de 1 moins 1 sur s2, c'est-à-dire 1 moins 1 sur 2s2. Donc ça va tendre vers son asymptote avec un terme correctif moins 1 sur 2s2. Et enfin, entre les deux, il faut une résolution numérique, et je vous donne la résolution numérique qui, je crois, a été effectuée la première fois, justement. Il est intéressant de dire historiquement que c'est pour étudier la fonction d'onde d'un tourbillon que Gross et Pitaevski ont introduit pour la première fois l'équation qui porte leur nom. Donc c'est, voilà, dans le livre de Lipschitz et Pitaevski, de physique statistique 2, il donne la courbe que j'appelle mon f de s, il l'appelle psi, f de psi égale s, voilà en fonction de s, la courbe qui décrit la fonction d'onde d'un tourbillon. Ça c'est la courbe numérique. Bon, alors je passe maintenant à une autre caractéristique importante du tourbillon dans un condensat homogène, c'est l'énergie E sur L par unité de longueur. Alors, j'ai calculé tout à l'heure l'énergie. Qualitativement, hein, elle est ici. Voilà. Et j'ai trouvé ensuite que ceci était minimum pour B égale psi. Et à ce moment-là, tous ces termes ont tous le même ordre de grandeur. Donc, grosso modo, l'énergie, je m'attends à ce que ça soit donné par ce terme logarithmique quand je remplace B par psi. Donc, je prends la formule tout à l'heure et je remplace donc la formule précédente, d par psi 0, ça me donne un ordre de grandeur de l'énergie du tourbillon par unité de longueur. En fait, on peut faire mieux. Comme on connaît f de s maintenant, numériquement, si on connaît la fonction d'onde numériquement, on peut calculer numériquement l'énergie d'interaction, l'énergie cinétique radiale et l'énergie cinétique azimutale. Donc, on peut calculer numériquement toute l'énergie. Et donc le résultat du calcul, qui est donné dans le Landau Lipschitz, dans le Lipschitz et Pitaevski, excusez-moi, qui est tout simplement la même formule que tout à l'heure, pi rho 0 h bar 2 sur m log de r sur psi 0, avec un préfacteur ici qui vaut 1.46. En fait, ce préfacteur, si je prends le logarithme de ça, c'est logarithme de 1 sur 46 plus logarithme de r sur psi 0, ça revient à ajouter, au terme où il n'y a pas le préfacteur, une constante. Hein, une constante qui figurait dans mon calcul de tout à l'heure. Mais voilà donc l'énergie de l'état par unité de longueur avec un tourbillon. Alors, on peut se demander, j'ai fait tous les calculs pour pas compliquer, pour un tourbillon m égale 1, les calculs se généralisent sans difficulté au cas d'un tourbillon m plus grand que 1. À ce moment-là, on trouve que l'équation différentielle à l'origine a l'équation de définition de la fonction de Bessel jm, ce qui montre que pour un tourbillon de moment cinétique plus grand, m plus grand que 1, la fonction d'onde part comme s à la puissance m, comme s carré pour un tourbillon m égale 2, s cube pour un tourbillon m égale 3, et elle tend vers son asymptote comme 1 moins m2 sur 2s2. Quant à l'énergie d'un tourbillon m plus grand que 1, c'est facile de comprendre. La vitesse, c'est h bar m sur r perpendiculaire, parce que c'est une puissance im phi. Donc la vitesse est multipliée par m, et l'énergie cinétique azimutale est multipliée par m au carré. Donc, l'effet essentiel, ça va être de multiplier l'énergie par unité de longueur d'un tourbillon oméga 1 par m au carré. Par contre, la forme de la fonction d'onde étant légèrement différente, les contributions exactes des énergies radiales, des énergies cinétiques radiales azimutales, va être différente, et le préfacteur 1,46 que j'avais tout à l'heure ne va plus être égal à 1,46, mais il va être égal à 0,59 pour oméga 2, 0,38 pour oméga 3. Vous pouvez regarder ici cette référence où tous ces résultats sont donnés en détail. Bon, j'en ai fini avec le condensat homogène, et je passe maintenant au condensat inhomogène. Un tourbillon quantique dans un condensat inhomogène. Et je vais supposer, bien sûr, que j'ai un condensat de symétrie cylindrique avec deux fréquences caractéristiques, la fréquence radiale oméga perpendiculaire, la fréquence longitudinale oméga z, et les deux paramètres importants, sigma 0 perpendiculaire, qui est racine carrée de h bar sur m oméga perpendiculaire, et sigma 0 z égale racine carrée de h bar m oméga z. Alors maintenant, dans un condensat de ce type, tous les atomes sont condensés dans un état de moment cinétique h bar, si je prends un tourbillon m égale 1. Et la dépendance en phi de la fonction d'onde va toujours être donnée par efficience ici, parce que c'est toujours un état propre de Lz. Par contre, la seule chose qui va être différente, c'est qu'il faut que dans l'équation de Gross-Pitaïsky, j'ajoute un terme qui décrit l'interaction avec le potentiel de présage, il faut que j'ajoute un terme V extérieur de R perpendiculaire Z, qui de R perpendiculaire Z, où V extérieur est donné donc par le potentiel harmonique précédent. Alors je crois qu'il est intéressant d'abord pour fixer les idées de prendre le cas d'un condensat homogène, qui est trivial. Le cas d'un gaz parfait, pardon, excusez-moi. Si je prends un gaz parfait, donc il n'y a pas d'interaction, et les fonctions propres, dans un piège harmonique, il n'y a pas d'interaction, de la Hamiltonienne à une particule, vont être repérées par les nombres quantiques nx, ny, nz. Quand il n'y a pas de tourbillon, toutes les particules sont représentées dans l'état nx égale 0, ny égale 0, nz égale 0. Quand j'ai un tourbillon, m égale 1, il faut construire donc à partir de ces états un état excité de moment cinétique m égale 1. Alors c'est facile à voir ce qu'il faut. Il faut exciter le degré de liberté x, il faut exciter le degré de liberté y. Donc il faut que je prenne une combinaison linéaire de mx égale 1, ny égale 0, nz, et de mx égale 0, ny égale 1, nz égale 0. Je vous rappelle que la fonction d'onde mx égale 1, c'est x fois la fonction d'onde fondamentale. Et la fonction d'onde ny égale 1, c'est y fois la fonction d'onde fondamentale. Donc ce que je vais prendre 1 sur racine de 2 plus i sur racine de 2, parce qu'à ce moment-là, avec ce coefficient de normalisation, je vais avoir une fonction d'onde qui va être x plus y, et puissance moins r perpendiculaire carré sur 2 sigma 0 perpendiculaire carré, puissance moins z carré sur 2 sigma 0 z carré. Donc ça n'a pas de dépendance en phi, et x plus y, c'est r perpendiculaire et puissance ici, et je trouve la dépendance en puissance 6. Donc, l'état à un tourbillon, c'est l'état dans lequel tous les atomes sont condensés dans cet état, qui est donc une superposition linéaire des états nx égale 1, ny égale 0, nx égale 0, ny égale 1, qui ont la même énergie. Et on voit tout de suite que c'est un état qui a bien moins cinétique plus f bar, et que l'énergie par atome, par rapport à celle du fondamental, vaut h bar oméga perpendiculaire. Donc ça, c'est facile à comprendre. Donc ça va être état 1 sur racine de 2, 0, 1, 0, 0, plus i sur racine de 2, 0, 1, 0, avec une énergie par atome, et par atome, égale h bar oméga perpendiculaire. Alors prenons maintenant l'autre limite opposée, la limite où les atomes interagissent fortement, où on est à la limite de Thomas Fermi. Quelle est maintenant l'allure de la distribution spatiale? Je vais supposer que le rayon du condensat transverse, R perpendiculaire à la limite de Thomas Fermi, est beaucoup plus grand, beaucoup plus grand que la longueur de relaxation phi 0. Donc, si je suis très loin de l'axe, la présence du cœur ici va être extrêmement faible, va avoir un effet faible. Donc, je m'attends à ce que la densité spatiale en fonction de R perpendiculaire va avoir un trou ici de largeur phi 0 avec une annulation parabolique, si je prends son tournillon m égale 1, parce que ce n'est pas la fonction d'onde ici, c'est la densité spatiale. Et puis, je vais rejoindre la forme parabolique qui s'annule en R perpendiculaire, la forme parabolique typique du condensat à la limite de Thomas Fermi. Voilà à quoi je m'attends. Hein. J'ai rappelé l'expression de psi 0, l'expression de psi plus 0 perpendiculaire, l'expression de mu, où rho 0 maintenant c'est la densité au centre, en l'absence de tourbillon, et le rayon du condensat à la limite de Thomas Fermi est donné par la condition que l'énergie potentielle pour R égale R perpendiculaire est égale à mu. Alors ici, il est important d'avoir bien en tête la hiérarchie des diverses grandeurs et d'avoir des relations qui existent entre elles. Et j'ai cru important de le rappeler ici. Je prends d'abord psi 0 2 sur sigma 0 perpendiculaire au carré. Je compare la longueur de relaxation à la longueur caractéristique de la fonction d'onde de l'état fondamental de l'état harmonique, sigma 0 perpendiculaire. C'est 1 sur 8 pi à rho 0, psi 0 carré, et sigma 0 carré au dénominateur, c'est alpha sur m oméga perpendiculaire. Alors, je mets m sur 8 pi h bar 2 à rho 0, et je multiplie donc par h bar en bas, h bar oméga perpendiculaire, et 8 pi h bar 2 rho 0 sur m, c'est 2 fois mu au dénominateur, et j'ai une première relation synthétique, c'est psi 0 2 sur sigma 0 perpendiculaire carré, égale h bar oméga perpendiculaire sur 2 mu. Et nous savons que, à la limite de Thomas Fermi, l'énergie de l'oscillateur, h bar oméga perpendiculaire, est très petite devant mu, donc ça c'est très petit devant 1, donc je trouve, si je reviens à la formule, à la figure précédente, que la longueur de relaxation ici est beaucoup plus petite que la dimension caractéristique de la fonction d'onde de l'oscillateur harmonique radial. Maintenant, je vais comparer ces grandeurs à R perpendiculaire, au rayon du condensat. Alors, le rayon du condensat, donné par la formule E demi de M oméga perpendiculaire carré R perpendiculaire égale mu, qui est égal à 0, 0, qui est égal à 4 pi h bar 2 sur M à rho 0, et qui est donc égal, en faisant apparaître ici, 6, 0, 2, h bar 2 sur 2m, 1 sur psi 0, 2, puisque psi 0, 2, c'est 1 sur 8 pi à rho 0. Vu cette expression, j'en déduis donc R perpendiculaire au carré, ces deux équations, égale h bar 2 sur m2 oméga perpendiculaire carré psi 0, 2, égale sigma 0 perpendiculaire à la puissance 4 sur psi 0, 2, et j'obtiens donc une autre relation intéressante, qui est que sigma 0 perpendiculaire au carré sur R perpendiculaire carré égale psi 0, 2 sur sigma 0 perpendiculaire carré. Et ça, c'est très petit devant 1. Autrement dit, si je reviens à la figure de tout à l'heure, le rapport entre cette distance au carré et cette distance au carré, c'est aussi le rapport entre cette distance au carré et le rayon du condensat au carré. Donc il y a une hiérarchie très claire entre ces trois longueurs. La plus petite, c'est psi 0, et ensuite sigma 0 perpendiculaire, et ensuite R perpendiculaire. Il est important d'avoir bien ces notions en tête. Et pour vous montrer, illustrer ça de manière plus concrète, voici le résultat d'une étude numérique faite par, compilée dans l'article de revue de Dalfovo, Stringari, Spitalski et collaborateurs, où on présente sur cette figure trois fonctions d'onde en tiré ici. C'est la fonction d'onde de cet état du gaz parfait, hein, ça c'est la fonction du tourbillon L égale 1 pour un vers parfait. En très interrompu ici, c'est la fonction d'onde de l'état sans tourbillon à la limite de Thomas Fermi. Et en très plein, c'est la fonction d'onde de l'état 1 tourbillon à la limite de Thomas Fermi. Et vous voyez donc clairement que ce que je vous disais tout à l'heure est bien vérifié. En dehors du cœur, la modification par rapport à l'état sans tourbillon est minimale. Et on a l'hiérarchie entre la longueur de relaxation, la longueur caractéristique de la fonction d'onde de l'oscillateur harmonique et l'orient du condensat. Alors, quelle est maintenant l'énergie du tourbillon? Alors, si je reprends l'énergie par unité de longueur que je suis calculé tout à l'heure pour un condensat dans un cylindre, la première idée qui vient à l'esprit, c'est pour avoir l'ordre de grandeur de l'énergie par unité de longueur du condensat inhomogène, je remplace le rayon du cylindre par le rayon du condensat. Donc je remplace le R que j'avais tout à l'heure par R perpendiculaire. Alors ça me donne l'énergie par unité de longueur. Mais quel est le nombre maintenant, je vais calculer l'énergie par atome. Quel est le nombre d'atomes par unité de longueur? Le nombre d'atomes par unité de longueur, c'est pi R perpendiculaire carré, qui multiplie rho 0, ça c'est l'ordre de grandeur. Et en divisant l'énergie que j'avais tout à l'heure par pi R perpendiculaire rho 0, et en remplaçant dans l'expression précédente R par R perpendiculaire, j'obtiens pour l'énergie par atome dans un condensat homogène, un ordre de grandeur très, très schématique, hein, et par atome, égal de l'ordre de grandeur de H bar 2 sur M R perpendiculaire au carré, logarithme de R perpendiculaire sur 6 euros. Ça c'est limite Thomas Fermi, en ordre de grandeur, et ça c'est gaz parfait. Et je peux maintenant estimer, comparer ces deux grandeurs, et faire le rapport, et atome, à la limite de Thomas Fermi, par et atome gaz parfait, j'obtiens ceci, alpha sur m oméga perpendiculaire, qui vient d'ici, 1 sur r perpendiculaire, alors il y a des erreurs dans les notes, hein, je m'excuse. J'ai mis un h bar 2 ici, sur les notes, un h bar, et puis il manquait un carré ici, donc si vous corrigez. Donc vous avez h bar sur m perpendiculaire, 1 sur r perpendiculaire carré, logarithme de r perpendiculaire sur 6 0, et c'est finalement, ce résultat important, sigma 0 perpendiculaire carré sur r perpendiculaire carré, log de r perpendiculaire sur 6 0. Et vous voyez ici qu'il y a deux facteurs qui vont en sens inverse. Quand j'augmente le nombre d'atomes, r augmente, R perpendiculaire augmente, si 0 diminue, et ce terme-là augmente, et ce terme augmente logarithmiquement, à une croissance logarithmique en n. Par contre, R perpendiculaire augmente, alors que sigma 0 perpendiculaire lui reste constant, il dépend de oméga perpendiculaire, ce terme décroît. Et comme R perpendiculaire varie comme n puissance 1 cinquième, ce terme a une décroissance en loi de puissance. Donc j'ai un terme qui décroît en loi de puissance, un terme qui croît logarithmiquement, c'est le terme en loi de puissance qui augmente, et je m'aperçois donc que l'énergie par atome est plus petite dans un condensat inhomogène, à la limite de Thomas Fermi, que dans un gaz parfait. Ça fait en fait que le condensat, à la limite de Thomas Fermi, gonfle par rapport au gaz parfait, donc l'énergie totale est plus faible, parce que l'énergie d'interaction est plus faible, et parce que la densité diminue quand le condensat gonfle, et puis le champ de vitesse qui décroît comme 1 sur R, si le condensat est plus gros, l'énergie cinétique va diminuer. Donc, point important, les interactions font diminuer, dans un tourbillon, l'énergie par atome. Alors, il y a un joli calcul qui a été fait par Lunds, Petit et Smith, qui ont réussi à obtenir de manière très élégante une équation analytique pour l'énergie par atome dans un tourbillon, dans un condensat inhomogène, dans un tourbillon. Je ne vais pas refaire ce calcul qui est un peu longué, mais vous donner simplement le principe, qui est très simple. Expression analytique c'est toujours agréable d'avoir des expressions analytiques quand on étudie un problème pour et atome et par atome. Donc ça c'est la référence 12. Alors comment on fait? Comment c'est tout à fond? Ils disent d'abord, prenons d'abord un condensat dans un piège transverse, un piège harmonique transverse, un demi de m oméga perpendiculaire carré, r perpendiculaire carré, et prenons le condensat infini le long de l'axe z. Donc je prends un condensé avec un piège harmonique le long de XY et puis libre le long de Z. À ce moment-là, ils disent la chose suivante. Sur ce cylindre, je vais distinguer deux parties. Une partie de rayon B, de rayon, pardon, D, tel que D est beaucoup plus grand que la longueur de relaxation, mais beaucoup plus petit que le rayon du condensat transverse. C'est-à-dire que je suis dans la zone où je monte du cœur, du zéro, le cœur je monte, et je suis sur un plateau, et puis je ne suis pas encore descendu paraboliquement à l'extrémité. Donc je prends une zone comme ça, et puis une zone supérieure, R perpendiculaire, supérieure à D, plus petit que R perpendiculaire, à ce moment-là je suis dans la zone parabolique, la zone de décroissance parabolique. Et je l'ai évalué séparément, sur ce condensat piégé transversalement, mais infini le long de l'axe Z, la contribution de ces deux heures. D'abord, la première zone, près de l'axe. Comme la densité spatiale est partie de zéro, a augmenté et a atteint un plateau qui n'a pas encore descendu, je suis exactement dans le cadre d'un condensat homogène contenu dans un récipient, dans une boîte. À ce moment-là, je peux utiliser l'expression numérique calculée par Pitaïski et Gross pour l'énergie avec le préfacteur ici, 1,46, et en remplaçant le rayon R du cylindre d'un condensat homogène par le rayon que j'ai choisi, la D, avant que la densité ne diminue. Donc j'ai cette expression. Et 1 sur L. Maintenant, la zone R perpendiculaire compris entre D et R perpendiculaire. À ce moment-là, attention, je ne peux plus utiliser l'expression d'un condensat homogène parce que la densité spatiale décroît paraboliquement. Mais je dis qu'à ce moment-là, la seule différence importante par rapport à l'état sans condensat, j'ai la même densité spatiale, vous avez vu tout à l'heure que la densité spatiale est très voisine. Simplement, pour un condensat sans tourbillon, je n'ai pas d'énergie cinétique azimutale, alors que pour un condensat avec un tourbillon, j'ai une énergie cinétique azimutale. Donc le delta E2, le E2 sur L, ben, est tout simplement le nombre d'atomes contenus entre B et R perpendiculaire dans la couche R de R, rho de R, V carré de R sur 2. Où V de R, c'est H bar sur MR, MR, rho de R, c'est rho 0, 1 moins R2 sur R perpendiculaire carré, ça c'est le profil de Thomas Fermi, et puis c'est tout. J'ai tout ce qu'il faut. Et cela, quand je fais ça, quand j'intègre cette intégrale est analytique, hein, on peut la calculer exactement, et je vois apparaître un logarithme de R perpendiculaire sur D, et puis un terme constant, parce que quand je prends rho de R ici, il y a un terme constant et un terme en R2, comme V carré de R, c'est 1 sur R2, le terme en 1 sur R2 avec le terme R ici m'ont donné un logarithme, le terme en R2, le rho de R avec le terme en 1 sur R2 ici va me donner un terme constant, et quand je vais intégrer, ça va avoir quelque chose en R perpendiculaire carré. Donc cette intégrale se calcule exactement, et vous voyez qu'à ce moment-là, quand j'ajoute cette énergie à cette énergie, le log de D, qui est au dénominateur ici, donc mon log de D va se simplifier avec le log de D qui est ici, et ça va revenir ici à remplacer au numérateur D par R perpendiculaire. Et je fais disparaître ce paramètre D qui était un petit peu artificiel. Et j'obtiens, donc pour un condensat piégé transversalement, mais libre le long de la Z, une expression analytique qui est E sur L, égale T rho 02 sur M, H bar 2, log de 0,866 R perpendiculaire sur psi 0. Le 0,866, hein, il n'est pas mystérieux, il provient de ce logarithme de ce 46, et puis ce terme constant qui est ici, que je peux rentrer sous forme d'une constante et le faire apparaître ici comme un préfacteur. Alors, supposez maintenant que nous ayons un condensat qui n'est plus libre le long de l'axe Z, mais qui est aussi piégé le long de l'axe Z. Alors, je crois que je vais faire un dessin ici, c'est plus simple. Voilà, je vais prendre ça comme ça. À ce moment-là, ben, on va le couper en tranches. Et chaque fois, on va se ramener à l'énergie par unité de longueur, donc on en a infini, et j'obtiens cette expression. On peut donc en couper en tranches des n entre moins z0 et plus z0, les deux extrémités du condensat, qui, h bar 2 sur n, somme de moins z0 et plus z0, de dz, rho de z, log de 0,866, R perpendiculaire de Z sur psi 0 de Z. Alors là, je m'explique dans les notes, je ne sais pas pourquoi. J'ai oublié de mettre la dépendance en Z de R perpendiculaire, parce que quand je coupe par une tranche ici à l'altitude Z, le rayon du condensat, il dépend de Z. Hein. Et R perpendiculaire de Z, c'est R perpendiculaire ici, pour Z=0, que vous étiez 1 moins Z2 sur Z0,2, ah, 1/2, c'est pas 1, c'est racine carrée, parce que c'est la forme parabolique, c'est la forme parabolique de Thomas Ferry. D'accord? Et qui, si de Z dépend aussi de rho 0 de Z, et rho 0 de Z, 0,0, 1 moins Z2 sur Z0,2, le long de l'axe Z. Alors, toute cette intégrale maintenant se calcule analytiquement, et on obtient finalement une expression pour l'énergie totale du condensat qui est donnée par cette formule-là. Si je divise par N le nombre total d'atomes, qui est somme de B3R rho 2R, qui est rho de somme de B3R 1 moins R perpendiculaire sur grand R perpendiculaire carré moins Z2 sur Z0,2, et intégrale qui se calcule et qui donne cette expression, j'obtiens cette expression analytique pour l'énergie par atome dans un condensat inhomogène. Et vous voyez que c'est 5/2 de H bar 2 sur M R perpendiculaire, log intrafacteur 0,671 R perpendiculaire sur 6,0. Donc vous voyez, par rapport au petit calcul à la main de tout à l'heure, il y a un préfacteur ici et un préfacteur ici. Mais la forme même de l'énergie par atome reste la même. Alors, je termine maintenant par la dernière partie, tourbillon dans un pièce tournante. Alors, vous savez que si on est dans un pièce qui tourne, dans le référentiel tournant à la vitesse angulaire oméga, où le potentiel extérieur est statique, indépendant du temps, il faut bien sûr que j'ajoute le terme lié à la rotation, il faut que j'ajoute à la Hamiltonienne le terme moins oméga LZ. Si le condensat contient un tourbillon M égale 1, de moment cinétique plus F bar, l'énergie par atome change d'une quantité moins F bar, oméga. Donc, l'énergie par atome passe de E atome, que j'ai calculé juste maintenant, à E atome moins H bar oméga. Donc, la rotation favorise, diminue l'énergie par atome quand il y a un tourbillon. Alors que si je n'ai pas de tourbillon, L est nul, le moment cinétique est nul, et l'énergie par atome ne change pas. D'accord? Donc, l'état d'un tourbillon peut devenir l'état thermodynamique stable si E atome moins H bar oméga, qui est l'écart d'énergie par rapport à l'état sans tourbillon, devient négatif. C'est-à-dire si l'état d'un tourbillon, dans le pièce tournant, a une énergie inférieure à l'état sans tourbillon. Donc, si oméga est supérieur à une vitesse critique, oméga égale oméga supérieur à oméga critique égale E par atome divisé par H bar, l'état à un tourbillon peut devenir l'état thermodynamique stable. Et on peut donc se dire que la manière peut-être la plus simple de réaliser un tourbillon, c'est de prendre un condensat sans tourbillon, de le tourner à une vitesse de plus en plus élevée, et puis de voir à partir de quel moment un tourbillon va apparaître. Alors évidemment, on évacue de cette manière le problème de la nucléation. Comment on va aboutir à cet état? Est-ce qu'il n'y a pas des barrières de potentiel qui vont empêcher d'arriver à cet état? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mécanismes de nucléation? Et je pense que ça, Jean Galibard va en discuter en détail dans le prochain séminaire, le mardi prochain. Mais ici, je veux simplement calculer oméga critique, pour avoir un peu les notions importantes. Et alors là, il est facile de voir, d'abord, le cas le plus simple, c'est le cas du gaz faible. Ah. Bon, c'est pas grave, c'est une figure que je peux faire facilement au tableau. Elle a disparu dans mes... Pour un gaz parfait, si je mets ici l'énergie en fonction de oméga, je pars pour oméga égale 0 de E atomique égale H bar oméga perpendiculaire, petit oméga perpendiculaire, et je prends une droite de pente moins 1 qui coupe l'axe oméga au point oméga perpendiculaire. Autrement dit, il manque ici les deux axes. Hein. Je crois qu'ils sont sur les notes quand même. Bon. Donc, je m'aperçois que la vitesse critique pour un condensat de gaz parfait à un tourbillon, c'est oméga égale oméga perpendiculaire. Il faut que oméga soit supérieur à oméga perpendiculaire. Mais alors ça, c'est embêtant parce que si oméga est supérieur à oméga perpendiculaire, la force centrifuge devient supérieur à la force de piégeage. Alors le condensat n'est plus piégé. Donc ce n'est pas une situation favorable. Par contre, si je prends un condensat avec des interactions, je vous ai montré tout à l'heure que E atomique était plus petite en présence d'interaction qu'en absence d'interaction. Ça veut dire que l'oméga critique va être plus petit que l'oméga perpendiculaire. Donc l'état tourbillon va devenir l'état thermodynamique stable avant que la force centrifuge ne déstabilise le piège. Et en utilisant la formule analytique de Lund, Petit et Smith, je trouve que oméga critique, c'est 5,5 de h bar sur m r perpendiculaire carré, l'ordre de 0,671 r perpendiculaire sur phi 0. Et c'est intéressant, là encore, de comparer cette prédiction analytique au résultat d'un calcul numérique, et c'est ce que je présente ici, extrait donc de la référence de l'article de Lund, Petit et Smith, porté ici en axis, en ordonnée, pardon, oméga critique sur oméga perpendiculaire, et ici le nombre d'atomes qui va me caractériser la force des interactions, puisque vous savez que les interactions dans un condensat sont caractérisées par le paramètre sans dimension, A longueur de diffusion, N nombre d'atomes divisé par sigma 0 perpendiculaire, taille de la fonction d'onde de l'oscillateur harmonique. Les croix ici sont les résultats d'un calcul numérique, et la courbe en trait plein, c'est la formule analytique que je vais donner juste dans le transparent précédent. C'est la formule analytique. Et vous voyez que ce rapport oméga critique sur oméga perpendiculaire est plus petit que 1, et vous voyez que dès que n atteint quelques milliers, la formule analytique donne une expression extrêmement correcte de la vitesse de rotation critique, et vous voyez que cette vitesse de rotation critique tend vers des valeurs de l'ordre de 0,3. Du tiers, entre le tiers et le quart, entre 0,3 et 0,4 fois la fréquence oméga perpendiculaire. En fait, je pense que Jean Dalibard vous montrera la semaine prochaine que les tourbillons apparaissent avant cette des vitesses de rotation supérieures à cette fréquence critique, ce qui montre que ce n'est pas le mécanisme de stabilité thermodynamique qui fait apparaître les tourbillons. C'est un autre mécanisme que je pense qu'il vous expliquera. Pour terminer, je donne les références. Ça, c'est la référence à l'article de revue de Dalfovo, Giorgini, Pitelski, Stringari. Ça, c'est l'article de Uji Pitelski. Ça, c'est les deux articles fondateurs de la théorie de Gross-Pitelski. Ça, c'est l'article où on dérive la formule analytique pour l'énergie par atome. Il m'a paru également utile de vous donner la référence à un très bon article, très complet, très détaillé sur les tourbillons, de Fetter et de Svidinski, un condensateur. Je ne sais pas s'il est paru maintenant dans une revue complète. Et puis il y a également un livre de mécanique statistique où il y a pas mal de considérations sur les tourbillons quantifiés. Donc voilà la première séance sur les tourbillons quantifiés. La semaine prochaine, je me poserai le problème, comment détecter un tourbillon? Que se passe-t-il? Comment on peut le voir par une modification des fréquences de vibration? Et comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, avant qu'on s'arrête, s'il y a des questions à poser, je suis heureux que vous les posiez. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous allez trop vite ou... Pas de questions? Bon, ok, merci.